11 novembre 1987.
Rester sur l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je crois que c'est important de bien voir le poids de cette interrogation, de voir comment l'intelligence, quand elle se pose la question qu'est-ce que c'est que l'être à partir du jugement d'existence, et que de fait, après avoir examiné ce que descriptivement, l'intelligence peut dire, l'intelligence considérant l'être le plus parfait que nous pouvons expérimenter, qui est l'homme, découvre toutes ces diverses manières d'exister, exprimées par les prédicaments, se trouve devant ces deux manières fondamentales. Le point de vue de la substance première, le todéti grec, pierre, sujet de toutes les attributions. Toutes les déterminations se ramènent à pierre. Et puis, à ce que Aristote appelle la substance seconde, pierre est un homme, la détermination fondamentale, première, qui détermine Pierre. L'être, l'exister de Pierre, c'est l'exister d'un homme. Homme exprime, signifie la manière fondamentale, la manière propre plus exactement, d'exister de Pierre. Pierre existe, il est à la manière d'un homme, et non pas à la manière d'autres réalités, non pas à la manière d'un chien, d'un chat, mais il existe à la manière d'un homme. Et alors, je vois, en analysant ces deux manières, ces deux moments ultimes des prédicaments, pierre et homme, que ni l'un ni l'autre ne disent ce qu'il y a de premier dans l'être, bien que l'un et l'autre disent quelque chose qui est premier dans l'être. Puisque, de fait, homme exprime la détermination essentielle de pierre, et pierre exprime la manière ultime, personnelle, individuelle, d'exister d'homme. Donc, l'un et l'autre expriment bien quelque chose de premier. Je ne peux pas aller au-delà de l'exister de Pierre. Et je ne peux pas aller au-delà de la détermination de homme. Je crois que c'est très important de bien voir que là, je saisis bien deux aspects premiers. Mais cependant, ces deux premiers ne sont pas ultimes, puisqu'ils sont deux. On est coincé, hein. Je crois que c'est très important de comprendre que l'intelligence, elle est coincée en regardant ces deux aspects. J'insiste un peu parce que nous reverrons après, j'ai envie de le faire après, pour que nous restions dans la ligne de la recherche. Je pourrais maintenant dire comment les philosophes ont-ils répondu à cette question. Donc il y aurait là toute une enquête historique à faire. Parce qu'on sent bien qu'on est coincé. Et on sent bien, j'espère, du moins vous le sentez, Et on sent bien comment Heidegger, donc le philosophe le plus proche de nous, a été tellement coincé qu'il est resté devant cette interrogation. En disant, c'est ce qu'il y a de plus grand dans toute la philosophie, de rester en face de l'interrogation. Merleau-Ponty, à sa manière, a dit aussi un peu la même chose. Ce qu'il y a de plus grand en philosophie, c'est d'interroger. Et n'oubliez jamais ça pour les examens. C'est la meilleure façon de passer un examen, c'est d'interroger. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous voyez. Et on voit tout de suite si votre interrogation est une interrogation qui a mis votre intelligence en alerte. C'est quelque chose de très vrai, vous voyez. C'est intéressant parce que cette position de Merleau-Ponty et cette position de Heidegger, c'est très significatif parce que d'une certaine manière, oui, ça rejoint Socrate qui interrogeait tout le temps. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. C'est pour ça qu'il n'a rien écrit. À ce point de vue-là, il est plus, j'allais dire, plus juste que Heidegger et Merleau-Ponty qui reconnaissent que c'est l'interrogation qui est le plus grand et cependant ils écrivent. Si je reconnaissais que l'interrogation est un vice qui est le plus grand, je dirais, voilà, restez devant cette interrogation de l'être. Et nous comprenons très bien que si nous restons devant cette interrogation de l'être, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il n'y a pas de philosophie. Je donne ma langue au chat. Je ne peux pas aller plus loin. C'est beau, c'est très beau l'interrogation. Vous savez ce que disait Platon à propos de l'interrogation ? C'est le chien de chasse en alerte. Il y a du gibier. Il sent là. Et c'est vrai, c'est beau de voir un chien de chasse en alerte. Il est là comme ça. En face d'un gibier qui reste caché. Le gibier pour l'intelligence, c'est de saisir qu'est-ce que c'est que l'être. C'est le seul gibier intéressant. Le reste, c'est très secondaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'être ? Ah, oui, mais je ne peux pas. Donc je reste en état d'alerte. C'est beau. Il y a une attitude de grandeur. Quand l'intelligence interroge, elle est dans une attitude de noblesse de l'intelligence. Parce que elle ne s'arrête pas à la description, elle ne s'arrête pas à ce qu'elle touche par les sens, elle veut aller plus loin. Mais elle ne peut pas. Et c'est comme un avion qui ne décollerait jamais. C'est avant de décoller, là, il va jusqu'au bout pour voir si ça marche bien les moteurs. Il y a un rondement particulier. J'interroge, c'est ce rondement d'intelligence qui va aller jusqu'au bout d'elle-même. Elle décolle, mais elle ne saisit pas encore. Alors voyez, ce qui serait intéressant ici, je le ferai après. Je crois que pédagogiquement, ça vous fatiguera moins. Parce que c'est très intéressant de faire l'enquête. Qu'est-ce que c'est que la substance ? Puisqu'on voit bien, la première réponse est ça. Et Aristote dit carrément, se poser la question, qu'est-ce que c'est que la substance ? C'est la question philosophie première, principale. Alors quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la substance ? Puisque bon, je suis devant substance première, substance seconde. C'est très bien de mettre 1 et 2. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la substance. Et c'est là où je vais essayer de découvrir. Et au fond, on voit que toute notre philosophie occidentale et orientale, là, c'est la même chose. Même l'Inde se pose la question, qu'est-ce que c'est que la substance ? Et c'est très intéressant de voir que depuis Aristote, parce que je crois que c'est quand même le mérite d'Aristote d'avoir posé le tiesti, qu'est-ce que c'est que la substance? Jusqu'à nos contemporains, la question s'est posée. Alors, on verra la position de saint Thomas. Je ne le fais pas maintenant. On verra la position de saint Thomas, parce que je crois que ça nous intéresse tous. J'ai fait l'enquête minutieuse, croyez-le bien. J'ai saisi chaque fois que saint Thomas parlait de la substance, à travers toutes ses œuvres. C'est très intéressant à faire. C'est une manière de saisir saint Thomas. Quand on a le temps de le faire, et on doit le faire chacun d'entre nous, dans la mesure où on a le temps. Chaque fois que saint Thomas pose substance, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est très curieux, et j'allais dire, c'est très décevant. C'est très décevant. Je peux me la poser la question chez Aristote, le livre des états. Si on avait le temps, on lirait tout le livre des états ensemble. Et ça vaut la peine. Parce qu'Aristote se pose la question, qu'est-ce que c'est que la substance? On va revenir sur la question. Donc, le livre des états est un livre, il a 17 chapitres. Il y a 16 chapitres négatifs qui rejettent, qui rejettent, qui rejettent, qui rejettent, qui rejettent. C'est très joli. Aristote montre tous les premiers dans tous les domaines de la philosophie, tous les premiers, pour montrer que tous ces premiers qui ne sont pas le premier dans l'ordre de l'être n'est pas ce qu'est la substance. Alors là, c'est très intéressant parce que ça montre que découvrir la substance, c'est découvrir le premier dans l'être. Ce qui est l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la substance? Puisque poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et qu'est-ce que c'est que la substance? Ça revient au même. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est découvrir le premier dans l'être. Ce qui est primordial, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors, à ce point de vue-là, le livre Zeta d'Aristote, Avicenne disait qu'il l'avait lu 50 fois, le livre Zeta. Et comme Avicenne était une des plus grandes intelligences de son temps, et même, je crois, de l'humanité, après saint Thomas, c'est évident. Mais une des plus grandes intelligences, Avicenne était une intelligence d'une curiosité extraordinaire et plus universelle que saint Thomas. Saint Thomas, c'est le théologien. Avicenne a beaucoup plus de curiosité, c'est le médecin, il cherche partout. C'est un petit peu comme saint Augustin, si vous voulez, d'une certaine manière, saint Augustin. Je ne vois pas saint Thomas écrivant un traité comme saint Augustin sur la musique. Je ne vois pas. Tandis que saint Augustin écrit un traité sur la musique. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est autre chose. Mais le De Musica de saint Augustin est quelque chose d'intéressant à lire pour ceux qui s'intéressent à la musique. Parce que ça fait partie quand même des recherches. Qu'est-ce que c'est que la musique, quoi? C'est pas si commun que ça de répondre. Qu'est-ce que c'est que la peinture? Qu'est-ce que c'est que la musique? Qu'est-ce que c'est que l'art? Saint Augustin étant rhéteur s'est posé la question. Bon, il y a toute une enquête sur Saint Augustin, donc, sur qu'est-ce que c'est que la substance chez Saint Augustin? Qu'est-ce que c'est que la substance chez Saint Thomas? Qu'est-ce que c'est que la substance chez Avicenne? Vous voyez, je crois que quand on se pose la question comme ça, chez un philosophe, on touche quelque chose de tout à fait fondamental. C'est pour ça qu'on ne perd pas son temps. On pourrait faire cette enquête, c'est fatigant. Alors on le fera pour saint Thomas, si vous voulez. Parce que ça peut nous intéresser tous, et ça nous permettra d'entrer mieux dans la pensée de saint Thomas. Mais on verra que ce n'est pas saint Thomas qui nous fait comprendre ce que c'est que la substance. Parce que saint Thomas présuppose que c'est connu. C'est quand on fait cette enquête chez saint Thomas qu'on voit que saint Thomas n'est pas c'est pas son souci, n'est pas un philosophe. Comprenez bien ce que je dis. Hein. Cet homme ne fait pas la recherche philosophique. Il la présuppose. Il est un théologien. Et ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. Parce qu'autrement, on demande à saint Thomas ce qu'il ne peut pas nous donner. Et je crois que ça a été l'erreur de la scolastique de Suarez. Suarez a voulu puiser à saint Thomas une métaphysique. Alors que saint Thomas utilise une métaphysique. Ne demandez pas à celui qui utilise la science de savoir ce que c'est que la science. Celui qui utilise la science, il la présuppose connue. Alors, il est suffisamment intelligent pour la connaître, mais il l'expose pas. Il utilise. Le théologien utilise la métaphysique, mais présuppose connue la métaphysique. Le philosophe, pour saint Thomas, c'est Aristote. Et je crois que c'est très très fort quand saint Thomas parle d'Aristote comme le philosophe. Si saint Thomas avait fait sa philosophie à lui, il dirait Aristote, très bien, je puise à Aristote. Mais j'ai une autre philosophie. Et vous voyez, c'est ce qu'a voulu redécouvrir Gilson. En disant, il y a une philosophie, il y a une métaphysique propre de saint Thomas. Et bien, je crois que c'est une erreur. Saint Thomas, serviteur de l'Église, c'est ce que l'Église lui demande de faire comme serviteur, d'être un théologien et non pas un philosophe. Au Moyen Âge, du temps de saint Thomas, on n'avait pas besoin d'un philosophe. Pourquoi ? Parce qu'on était en terre chrétienne. Parce qu'on était en terre chrétienne, saint Thomas écrit avant tout pour les chrétiens. Il écrit pour son ordre, c'est très net, pour des novices, pour tous ceux qui désirent entrer dans la doctrine sacra. Mais saint Thomas n'a pas du tout le souci que nous avons avec Vatican II. Vatican II est un concile très particulier, c'est pour ça qu'il a tellement dérouté. Il a dérouté le carré romain. L'arrière-garde, ceux qui voulaient tenir à foot à tout prix, parce que Vatican II ouvre des portes et demande l'ouverture par rapport aux hommes, par rapport au monde. C'est pour ça que je crois que Vatican II, c'est le concile de la dernière semaine. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de saint Jean. La dernière semaine, Jésus ouvre toutes les portes. C'est l'éclatement. C'est quelque chose de très particulier. Vatican II nous réclame de nous d'être des philosophes. Et si on est serviteur de l'Église, on doit être philosophe. Si on le peut, évidemment. C'est pas exigé de tout le monde. Mais on doit faire un effort. Et c'est là où on voit très bien comment on ne peut pas, aujourd'hui, se contenter de saint Thomas. On resterait dans la scolastique de Suarez. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est une question d'esprit, ça. Être fidèle à saint Thomas, aujourd'hui, c'est comprendre qu'il faut aller au-delà de saint Thomas pour redécouvrir la philosophie. À l'état natif. Parce qu'une philosophie qui est digérée, hein, comprenez bien, qui est digérée par le théologien, n'est plus une philosophie. Le théologien se sert d'une philosophie. Et la philosophie, par nature, est une sagesse qui n'aime pas d'être saisie dans l'état de son service. Puisqu'elle est sagesse, donc elle a son autonomie. Vous allez tout de suite comprendre ça, parce que là, nous touchons un point très important pour comprendre l'effort qu'on fait. Si on ne voit pas ça, dire mais pourquoi prenez-vous pas la scolastique telle qu'elle a été donnée jusque maintenant, et telle que certains continuent de la donner. Il continue de donner la scolastique, sans voir du tout qu'il y a eu un grand tournant dans l'Église. Et je crois qu'il y a un très grand tournant qu'on ne comprendra que du reste progressivement, mais un tournant qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas les théologiens qui l'ont fait, ce n'est pas du tout les théologiens qui ont fait Vatican II, contrairement à ce qu'ils peuvent croire. Ce n'est pas eux. Oui, parce que j'ai entendu certains théologiens experts du Concile disant « Là où la recherche des théologiens s'est arrêtée, le Concile s'est arrêté. » J'ai compris. Saint-Esprit n'est pas dépendant des théologiens. Heureusement pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bouscule les théologiens quand ils croient qu'ils sont assis dans la chaire de Saint-Pierre. Il les bouscule et les théologiens comprendront très les derniers sans doute. Les derniers, ce que c'est le Vatican II. Et les laïcs comprendront avant. Parce qu'ils ont leurs œillères, vous voyez, un petit peu comme le Sanhédrin. Le Sanhédrin était le dernier à comprendre ce que c'était que le Christ et le Messie. Alors que Marie l'a compris tout de suite. Et que Joseph l'a compris aussi. Et que Joseph d'Arimathie l'a compris. Mais au Sanhédrin, il n'y a que Nicodème. Il y en a un. C'est beau du reste. Alors vous allez tout de suite saisir. Hein, quand saint Thomas, au début de la somme, nous dit qu'il y a trois sagesses. Ça, c'est du saint Thomas pur. Trois sagesses. Une philosophique, l'autre théologique, l'autre mystique. Et saint Thomas ne cesse d'affirmer, à la suite d'Aristote, le propre du sage, c'est d'ordonner. Toute sagesse implique un ordre. Donc, il y a un ordre de recherche philosophique et toujours deux ordres. L'ordre génétique et l'ordre de nature. L'ordre génétique, on passe de l'imparfait vers le parfait. L'ordre de nature, on commence par le parfait pour comprendre ce que c'est que l'imparfait. Et étant donné le conditionnement de notre nature, étant donné le conditionnement de notre vie intellectuelle, vous avez toujours ces deux ordres. Parce que nous commençons par l'imparfait pour aller vers le parfait. Vous touchez, vous expérimentez pour aller vers le parfait, saisir les principes. Et une fois que vous avez saisi les principes, vous redescendez pour saisir les propriétés. Donc il y a toujours deux ordres. La théologie, elle a un ordre. Est-ce qu'il y a un ordre génétique en théologie ? Hein ? Ou est-ce que la théologie, commençant par la foi, c'est un ordre de nature ? Le père Gérard des Lauriers s'était posé la question, y a-t-il une induction en théologie ? Et il avait répondu oui, et moi je réponds non. Il n'y a pas d'induction en théologie. Comment voulez-vous qu'on parle de la foi ? Même la théologie biblique n'est pas... C'est un ordre génétique, oui, de l'imparfait vers le parfait, c'est sûr, mais je parle de la foi. C'est ça l'avantage énorme de la théologie. On est tout de suite arrivé au terme. Quand vous faites un acte de foi, vous êtes arrivé au terme. Vous touchez Dieu, vous ne pouvez pas aller plus loin que la très sainte Trinité. Et votre foi, vous faites tout de suite toucher Dieu et tout regarder dans la lumière de Dieu. Donc, c'est un ordre de nature. Et la théologie mystique, y a-t-il un ordre génétique ? Non. Vous avez un ordre d'amour. Donc, vous voyez cette chose très curieuse. Si je veux redécouvrir une philosophie à partir de la théologie, l'ordre génétique disparaît. Il n'y a plus d'ordre génétique, donc il n'y a plus d'induction. Parce que l'ordre génétique implique l'induction, ce que nous allons voir. Tandis que l'ordre de nature n'implique pas l'induction. Alors vous comprenez pourquoi, dans tous les manuels scolastiques, on ne parle plus d'induction. On ne parle plus que de définition. Et tout se comprend du fait même que, en voulant découvrir, à partir de la théologie, un ordre, une sagesse philosophique, nécessairement l'ordre génétique est présupposé connu chez le théologien. C'est présupposé connu, donc je le laisse tomber. Je n'en parle pas. Et c'est ce qui explique comment, si je veux retrouver une philosophie à partir d'une théologie, je n'ai plus que des définitions et je n'ai plus l'aspect génétique. Or, comprenez bien, la pensée moderne, avec le point de vue de la psychologie, est extraordinairement axée vers l'ordre génétique. Toute la pensée moderne, il n'y a plus l'ordre de nature. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que la pensée scolastique, ayant laissé tomber l'ordre génétique, n'ayant plus que l'ordre de nature, elle ne peut jamais rejoindre la pensée moderne. Tandis que si je reprends un ordre génétique, je peux cheminer avec tous les modernes. Et je peux voir à quel moment je le quitte et pourquoi. C'est pour ça que c'est si important pour nous aujourd'hui de reprendre, puisque Vatican II nous le demande. Parce que je pourrais dire, mais restons en chrétienté, c'est tout, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide, quand on va beaucoup plus vite quand on est entre chrétiens, puisqu'on fait appel à la foi. Je vous ai déjà dit cette réaction dans un dialogue que j'avais à Paris avec les psychanalystes, et que j'avais invité tel ou tel ami, qui était un bon industriel du Nord, et on avait discuté pendant 3 heures, avec les psychanalystes, sur l'existence de l'âme. C'est quand même important de montrer aux psychanalystes qu'il existe une âme, des psychanalystes freudiens. Et alors, ce brave industriel, croyant, m'a dit au bout de... devant les psychanalystes, c'était très amusant à entendre, mais mon père, je ne comprends pas. Le catéchisme nous dit qu'on a une âme. Pourquoi chercher indéfiniment, philosophiquement, qu'on a une âme? Mais c'était admirable, de naïveté du croyant. Alors je me suis simplement dit, mais les psychanalystes ne partent pas de la foi, ils partent de l'expérience. Et il faut montrer comment l'expérience humaine implique la présence de l'âme. Je ne sais pas s'il a compris, c'est autre chose. Mais c'était très bon, vous voyez, au bout de 3 heures, on cherchait comment découvrir l'âme. Comment redécouvrir la présence de l'âme? Donc une recherche philosophique. Ordre génétique. Je pars de l'expérience. Et l'expérience, tout le monde doit l'admettre. C'est du reste comme ça qu'avait commencé ce dialogue. Ces psychanalystes sont venus me trouver en me disant, vous avez une philosophie réaliste, vous partez de l'expérience. Nous aussi, nous partons de l'expérience. Donc on doit pouvoir s'entendre. J'ai dit, si vous partez de l'expérience, ça m'intéresse. Parce que moi aussi, je pars de l'expérience. Mais alors, très vite, j'ai vu le petit changement, c'est qu'ils partent de l'expérience clinique et que moi, je pars de l'expérience humaine. Mais c'est important de montrer qu'il y a un petit décalage. On ne leur avait jamais dit ça. L'expérience clinique est limitée. Mais dans l'expérience clinique, il y a une expérience humaine. Mais elle est imparfaite. Si Freud avait été en face d'un saint, si un saint s'était venu faire psychanalyser par Freud, mais Freud aurait été bien obligé de reconnaître que... Freud n'étant pas un saint, ne pouvait pas mettre plus assez en cause la dimension humaine face à tous les malades qu'il avait. Si Freud avait eu des amis qui étaient des saints, il aurait mis en cause l'expérience qu'il avait en disant « mais il y a quelque chose d'autre dans l'homme ». Alors la maladie, c'est peut-être d'enfouir quelque chose d'humain. Et c'était ce que mes psychanalystes avaient conclu quand on dialoguait en disant le métier de psychanalyste, un métier de scaphandrier. J'aimais beaucoup ça. Scaphandrier, on recherche ce qui est enfoui. Un malade enfoui, un malade, un grand malade, enfoui le spirituel. Et on est devant un tombeau. Il n'y a plus que le végétatif. Ah, le végétatif, il meurt en dernier lieu, hein, pour être sûr. Il n'y a plus que le végétatif. Les extraordinaires continuent de manger, continuent de dormir. On les fait dormir, du reste. Parce qu'il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de médicaments pour rendre intelligent. Mais il y a des médicaments pour dormir. C'est très curieux. On n'a pas encore inventé la pharmacie du médicament qui vous donne le secret de la métaphysique. Vous prendriez ce petit médicament tous les matins et vous auriez l'illumination philosophique toute la journée. Tandis que si vous prenez tel médicament le matin, il vous fera dormir toute la journée. Et vous serez une sainte marmotte toute la journée. Et c'est quand même très important de comprendre ça. Vous voyez, de comprendre que la maladie enfouit l'esprit. Il faut le réveiller. Ça change tout. Point de vue de méthode, ça change tout. Si on est à la recherche de réveiller celui qui dort, Lazare sort de là. Hein. C'est ça qu'il faut, faire sortir l'esprit. Bon, alors vous voyez que la scolastique laisse tomber cet ordre génétique. Et c'est très curieux, vous verrez ça, quand on fera cette petite enquête dans saint Thomas, mais je la place après, exprès. Donc saint Thomas parle de la substance. C'est évident, c'est une évidence. De quelle substance parle-t-il? Et les bons thomistes ont toujours pris la substance en saint Thomas sans se poser la question, qu'est-ce que c'est que saint Thomas dit quand il parle de la substance? Et puis nous voyons très vite, après saint Thomas, dans la scolastique, que la substance, c'est le sujet. Autrement dit, la scolastique n'a gardé de la substance de saint Thomas que la substance première des catégories d'Aristote. La substance, chez tous les scolastiques. Croyez, là encore, j'ai fait l'enquête. Jusqu'au père Garrigou inclus, puisque c'est le dernier grand scolastique, avec Ramirez. La différence, c'est que Ramirez reconnaissait qu'il était le dernier scolastique, alors que le père Garrigou croyait que ça devait continuer. C'est toute la différence. Mais pour eux tous, la substance, c'est le sujet. Substance première d'Aristote, le todéti. Pierre. Alors, qu'est-ce que vous voyez en dehors du thomisme? Le mot « substance » a été gardé jusqu'à Hegel. La substantialité chez Hegel. Parce qu'en allemand, ça fait mieux. La substantialité. Alors, vous devriez vous poser la question, on se la posera. Pouvons-nous parler de la substantialité? Ou est-ce que ce n'est pas une hérésie? L'attente. Plan philosophique. Est-ce qu'Aristote aurait parlé de la substantialité? Blancheur. Substance, substantialité. Est-ce que parler de la substantialité, ce n'est pas déjà indiquer qu'on ne sait plus ce que c'est que la substance? Or, dans Hegel, c'est la substantialité. Et puis, après Hegel, la substance disparaît. Le grand hegélien français, Hamelin, le néo-hégélien, le néo-hégélien Brunswick, ne parle plus de la substance. Et Hamelin dit ouvertement qu'au cœur de toute la pensée philosophique, c'est la relation. Alors vous avez cette chose très très curieuse et très intéressante. C'est que pour Aristote, la substance est au cœur de sa philosophie. Dire, se demander qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que la substance, c'est identique. Ça montre bien qu'au cœur de la recherche philosophique, c'est la substance. Aristote ne dit pas, voyez, que se demander qu'est-ce que c'est que l'acte et qu'est-ce que c'est que l'être, c'est identique. Il ne le dit jamais. Tandis qu'il se dit qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que la substance, c'est identique. Et vous voyez que, à cause de Hegel, parce que je crois que Hegel, c'est un phénomène extraordinaire, génial et monstrueux. Le génie peut être monstrueux. Bien, Hegel, c'est c'est de fait génial, mais c'est monstrueux. Et on le voit à partir de la substantialité. Il va épuiser la substance de telle manière que la substance ne signifiera plus rien. Et après Hegel, à la place de la recherche de la substance, on met la relation. Pour Hamelin, au cœur de toute la philosophie, c'est la relation. Pour Brunswick, au cœur de toute la philosophie, c'est la relation. Et je crois qu'on peut dire que la philosophie contemporaine d'aujourd'hui, au cœur de leur philosophie, c'est la relation. Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, disciple de Husserl, Merleau-Ponty dit « L'être, c'est un tissu de relations. » On ne peut pas dire mieux. L'être est un tissu de relations. Vous êtes un tissu de relations. Et plus vous augmentez vos relations, plus votre être grossit. Et c'est vrai que c'est l'être mondain. Les personnes du monde vivent de leur relation. Ah, j'ai rencontré un tel orque. Voyez, là, vous en ajoutez. Ça va très bien avec le thé. On vit des relations. Bon, au plan humain, je comprends très bien. Pour beaucoup de personnes, parce que elles sont jamais, quand elles sont seules, elles s'ennuient. C'est le vide. Elles ne vivent que de relations. Mais au plan philosophique, c'est très ennuyeux, vous voyez. C'est la mondanité qui a pénétré dans la philosophie et qui fait que la philosophie s'est vidée. Il n'y a plus que la relation. L'être, c'est un tissu de relations. Vous voyez, c'est la mort totale de la contemplation. C'est pour ça que je dis c'est mondain. Puisque la contemplation exige le dépassement de la relation. Les gens qui vivent uniquement d'information ne vivent que de relations. Parce que l'information, c'est la relation. Il faut ce dépassement de la relation, d'information et de la relation pour découvrir la substance. Et en découvrant la substance, on découvre ce qu'il y a de premier dans l'être. Et quand on découvre ce qu'il y a de premier dans l'être, on n'a plus besoin d'autre chose. On trouve la stabilité. Donc vous voyez, ce problème de la substance, hein, tel qu'il se pose, et ça c'était nécessaire, puisqu'on était devant une impasse. La description, substance première, substance seconde, pierre, homme, Ça ne me permet pas de répondre à la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Puisque l'être se présente à moi dans la dyade. Homme, pierre. Et donc, je serai comme l'âne de Buridan. Un œil sur homme, un œil sur pierre, je ne peux pas choisir. Parce que je ne peux rien abandonner. Je ne peux pas abandonner homme et regarder pierre. Je ne peux pas regarder pierre et abandonner homme. Je suis dans l'impossibilité, je suis obligé de tenir les deux. Puisque les deux me disent quelque chose de l'être. Et quelque chose de primordial de l'être. Donc je ne peux pas l'abandonner. Puisque c'est primordial. Ah, c'est un primordial au niveau de la fonction. Et ce n'est pas un primordial au sens absolu. C'est un primordial fonctionnel. Et c'est ça qu'a découvert Aristote. Et ça, c'est quand même très beau. Et on est retombé dedans après. Un primordial fonctionnel, vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est un primordial dans l'ordre de l'attribution. Donc c'est un primordial fonctionnel. L'attribution, c'est une fonction. Logique. Vous voyez, vous regardez, homme est attribué à pierre. Et pierre n'est pas attribué à homme. Hein ? Vous pouvez tous comprendre ça. Vous pouvez dire, pierre est un homme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, l'homme est pierre. Hein, ça va pas. L'homme est pierre. Alors Paul, Jacques. Hein, Jacques, il n'est pas homme, puisque c'est Pierre qui est homme. Donc c'est tous les pierres qui sont hommes. Alors comme il n'y en a pas tellement, tous les autres sont balayés. Vous voyez, c'est fonctionnel. L'être n'est pas fonctionnel. L'être, c'est ce qui est. L'être est premier. C'est l'intelligence. L'intelligence ne se nourrit pas de fonction. L'architecture fonctionnelle, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est la destruction de l'architecture. Comme art. C'est l'aspect sociologique qui l'emporte. L'aspect fonctionnel. Oui, les tuyaux sont fonctionnels. Oui, oui. Les communications, c'est fonctionnel. Mais l'homme n'est pas fonctionnel. Vous ramenez à une fonction, mais c'est déshonorant pour votre personnalité. Celui qui ne vit que de relations se met aussi au niveau des fonctions. Oui, c'est important de saisir ça. Et ça, c'est l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je vois que je ne peux pas opter. Je dois dépasser, je ne dois pas abandonner, je ne dois pas nier. L'être, c'est bien homme, l'être, c'est bien pierre, c'est très vrai. Mais ce n'est pas ça qui est premier dans l'être. Alors comment saisir ce premier dans l'être ? Comment saisir ce premier dans l'être ? Puisque c'est très très prenant ça, mais c'est fonctionnel. J'espère que vous voyez bien, c'est logique au fond. Il y a tout un aspect logique. Pierre est un homme. Et je ne peux pas dire que l'homme est pierre. Donc je vois que homme, c'est le premier dans l'ordre de l'attribution. Et que homme, c'est le premier dans l'ordre de la non-attribution. C'est-à-dire homme, c'est le premier dans l'ordre de l'attribution. Et pierre, c'est celui qui est au-delà de l'attribution. C'est le sujet, ce qui n'est pas attribuable. Et vous restez là, en face de deux fonctions qui sont dans le langage. Le langage implique des propositions, et les propositions, c'est toujours un sujet et un verbe, un sujet et une qualité. Pierre est intelligent. Intelligent est attribué à Pierre. Pierre n'est pas attribué à intelligent, parce qu'il est sujet. Vous avez deux fonctions dans le langage irréductibles. Le sujet et l'attribut. Mais ce sont des fonctions de sujet et l'attribut. L'intelligence va au-delà de cet aspect fonctionnel. Puisque la fonction, c'est l'intelligence qui l'a fait. C'est mon intelligence qui fait les fonctions. Quand vous organisez un bâtiment, mais vous organisez les fonctions. Vous serez Vous, pour vous occuper du chauffage, c'est votre fonction. Vous serez, vous, cuisinier, c'est votre fonction. C'est celui qui organise. Et vous n'allez pas dire, puisque tu es au chauffage, tu t'identifies au chauffage. Puisque tu es à la cuisine, tu t'identifies à la cuisine. Dorénavant, tu seras cet être fonctionnel uniquement. Si on vous dit ça, vous allez dire, mais quand même, hein, ma dignité d'homme. Mais comme c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est tout le problème du patron et de l'ouvrier. Vous faites du patron, vous faites de l'homme une fonction en identifiant le patron et l'homme. Vous faites de l'homme une fonction en identifiant l'ouvrier et l'homme. Il s'agit de redécouvrir ce que c'est que l'homme. On est